Hey, 16h34, merci d'être des nôtres à Boulevard 102.1, c'est Gravel dans le retour. Quoi que ce soit sur les routes ou ailleurs, évidemment, on se tient au courant à gang, 418-971-1021, avant de retourner sur les routes d'ailleurs. Peut-être revenir sur un écrasement d'hélicoptère. Et là, il y a des décès qui se confirment. C'est dans quel secteur, Véro?
C'est Manhattan, la Hudson River. C'est le fleuve qui coule à l'ouest de l'île de Manhattan. Puis vers le bas de l'île, tu as le Holland Tunnel qui se trouve à cet endroit-là. C'est dans le secteur du quai 60 qu'un hélicoptère se serait écrasé. Et actuellement, on parle malheureusement de décès. Puis le chiffre qui circule, c'est entre 4 et 6. Ça s'est déroulé aux environs de 3h15. Fait qu'on a tout fermé la circulation dans ce secteur-là, de l'espèce d'autoroute de l'Ouest, si on veut.
Est-ce qu'on connaît les causes de cet écrasement-là?
On ne sait rien du tout à ce moment-ci. Il y a certains témoins qui mentionnent avoir vu comme si l'hélicoptère s'était détaché en deux, puis ce serait par la suite écrasé en tournant dans l'eau, mais sinon, très peu d'informations. On ne sait pas non plus c'est quel type d'hélicoptère. Est-ce que c'est un hélicoptère qui promenait des touristes, des gens d'affaires du secteur, des autorités? Ce n'est pas des informations qui sont disponibles à ce moment-ci.
Évidemment, dès qu'on aura des détails supplémentaires, ben Véro va les partager avec nous autres et avec vous autres. Si on revient sur notre réseau routier à nous, Audrey?
Deux accidents à vous mentionner sur la capitale. Peut-être commencer par celui direction Est, qui est juste avant Pierre-Bertrand. Direction Ouest, c'est après Robert Bourassa que ça se passe, ça crée énormément de ralentissements. Là, pour vous donner une idée, Capitale, direction Est, c'est entre Henri IV et Laurentienne que ça congestionne. Ouest, il y a un certain ralentissement à la hauteur de Robert Bourassa, mais Ouest, il y a aussi des problèmes entre Seigneurial dans le coin de Beauport et Laurentienne, fait que c'est vraiment catastrophique en ce moment. Il y a des problèmes aussi sur Henri IV, direction Nord, entre Wilfrid Hamel et la Capitale, ralentissement inhabituel d'ailleurs. Il y a un petit problème si vous êtes dans le coin de Val-Bélair, hauteur de l'avenue industrielle aussi, toujours sur Henri IV Nord. Henri IV Sud, à partir de Versant Nord jusqu'à l'entrée des ponts, c'est difficile. Si vous êtes sur Duplessis, direction sud, c'est à partir de Charest que ça ralentit jusqu'à l'entrée du pont Pierre-Laporte. Sur Laurier, dans les deux directions, difficile dans le coin des ponts aussi. Puis sinon, ben, c'est vraiment sur la rive sud, là. La 20 direction ouest, entre la route du président Kennedy et Chemin des Îles, particulièrement au ralenti. Quoi que ce soit d'autre, ça passe par le 418-971-1021. Puis vous rappelez juste rapidement que les traversiers, c'est piéton jusqu'au 16 avril, là, dû à des travaux.
Avec Donald Trump qui joue au yo-yo avec l'économie de la planète, avec l'élection fédérale qui est déjà à mi-parcours et avec le fantôme de Sam Ahmad qui s'est matérialisé dans la campagne électorale municipale, on manquera pas de sujet pour jaser avec François Bourque, ancien journaliste au Soleil, avec qui on avait pris l'habitude de jaser politique. Salut François.
Salut.
Sam Ahmad est devenu un vrai candidat à la mairie de Québec, le secret le moins bien gardé de l'univers, ou à peu près. Comment t'as trouvé ses premières sorties et ses premiers pas de retour dans l'arène politique?
Bien, disons, sur la forme, je dirais que c'est plutôt réussi. Évidemment, il n'y avait pas de suspense, mais je suis allé à son activité de lancement dimanche matin. Il y avait beaucoup de monde. Il avait réussi à remplir sa salle. Puis il y a des observateurs qui s'attendaient à trouver surtout des personnes plus âgées. C'était pas... Il y en avait, mais c'était pas que des personnes âgées. Donc, il y avait aussi plein de jeunes, pas tant de visages que je connaissais, quelques-uns ici et là. Un puis Michel Bouchard, ancien PDG du Centre des congrès.
Il n'a pas réussi à passer inaperçu, hein, tout le monde.
Non,
l'a
mais je pense qu'il doit se connaître un petit peu. Il sait très bien que s'il va là, c'est parce qu'il ne veut pas passer inaperçu. Il ne faudrait pas se surprendre, je pense, de le voir devenir candidat dans l'équipe de M. Ahmad. Donc, et puis, je pense que Sam Ahmad a démontré lors de cette première sortie-là qu'il avait beaucoup d'énergie. On l'a vu avec ses fils, en fait, les enfants de sa conjointe qui l'a élevé et qui considère comme ses enfants. C'est la première fois, moi, que je les voyais sur scène. Alors, on a vu un Sam Ahmad presque aussi ému, presque les larmes aux yeux au moment où il a été présenté par un de ses fils. Enfin, la dernière fois que je l'avais vu comme ça, c'est quand il avait annoncé son départ de la politique en disant « plus jamais la politique
». La vie étant ce qu'elle est.
Hein? C'est ça. Donc sur le niveau d'énergie, sur l'enthousiasme, je pense qu'il n'y avait pas de doute. Il y a encore, même s'il a pris quelques années depuis son départ, je pense qu'il est encore, il a l'air encore en forme pour
Écoute,
ça.
Écoute, c'est sur la forme. J'ai été surpris, François, parce qu'il a lancé sa campagne dimanche, puis nous, on l'a reçu lundi après-midi, puis je m'attendais à le voir friper. Tu sais, c'est une tournée d'entrevue. Il y avait eu quelques années d'accalmie, puis je me disais, la machine s'est peut-être remise à tourner trop vite, puis au contraire, il est arrivé top shape, relax. Fait que sur ce point-là, moi, je te rejoins. Au niveau de l'énergie, c'est un gars que je pense qu'il s'est ennuyé de la politique pas mal.
Oh oui, beaucoup. Et d'ailleurs, ouais. Il ne s'en cache pas. À l'époque même, je me souviens de la petite période où, après les incidents dont on se souvient sur le débat sur l'éthique, ces rencontres avec Marc-Yvan Côté qui avait permis notamment d'augmenter une subvention à une entreprise de Rivière-du-Loup. Bref, il avait été un peu tassé du Conseil des ministres, ouais. Mais il n'a pas démissionné tout de suite. Il est resté en poste comme député pendant un an. Et jusqu'à temps qu'il s'aperçoive ou qu'il comprennent que non, il ne retournerait pas au Conseil des ministres. Mm-hmm. Alors là, il a choisi de partir. Mais pendant cette période-là, il avait donné des entrevues. Moi, je me souviens avoir écrit là-dessus.
Oh oui.
Il disait ouvertement, « Je m'ennuie dans mon siège, dans mon fauteuil de simple député. » Alors, il se sait ou se pense promis à des rôles plus grands, plus importants. Alors oui, il s'ennuyait de la politique, ça c'est certain. Maintenant, je pense qu'il ne l'aura pas facile. Puis dans non. les tout premiers jours, on en a une indication.
Mais c'est toujours ça, hein? Tu sais, quand tu arrives comme le sauveur de la politique, puis il y a bien des gens qui l'attendaient un peu comme ça. Puis là, on réalise qu'en 24 heures, on n'aura pas toutes les réponses à nos questions parce qu'il y a un parcours électoral
C'est normal. Il n'y a personne qui dévoile tout son programme dans les premiers jours, dans les premières semaines. Ça, il ne faut pas vraiment s'en surprendre. C'est la même chose pour son équipe. Hein, on la connaît pas davantage qu'on la connaissait. Mais sur des sujets de fond, sur le tramway d'abord, la réplique ou la riposte est venue de là où on ne l'attendait pas, de Geneviève Guilbeault.
Ben oui.
Quand M. Hamad dit, écoutez, c'était une erreur de signer un contrat qui ferait en sorte que si le tramway est abandonné, la Ville de Québec aurait une pénalité à payer. Alors, c'est pas vrai, il dit, moi, quand je serai maire, ils disent, on payera pas de pénalité. Ben là, le maire Marchand a dit, écoutez, il y a un contrat, puis il dit, il faut payer. Et puis Mme Guilbeault est venue dire la même chose le lendemain. Donc, on a ici deux personnes qui ont lu et signé le contrat puis qui disent il y a une pénalité, puis on a une personne qui ne l'a pas vu le contrat puis qui dit il n'y en a pas. Alors, déjà là, en termes de rigueur dans la démarche, ça commençait un peu mal. Puis Mme Guilbeault en a rajouté un petit peu en disant « J'invite les candidats à la mairie à appuyer le tramway. » Vous m'avez pas mal compris.
Non.
J'espère que je ne serai pas mal cité. C'est bien Mme Guilbeault qui
oui.
a dit ça.
Ouais.
Et j'invite à appuyer le tramway et le troisième lien, évidemment. Mm-hmm. Un allant pas sans l'autre dans son esprit. Alors, bien sûr que M. Hamad venait de dire lors de sa sortie publique que ça ne sera pas un tramway, ce n'est pas un bon projet pour Québec. Alors, on voit déjà que celui qui se posait en genre de rassembleur en disant « Moi, je vais être capable de fonctionner avec le gouvernement, c'est pas comme M. Marchand », mais on voit déjà que ça sera pas si facile qu'il pouvait se l'imaginer.
Et la seule personne qui pouvait lui donner un coup de main quand tu regardes le libellé de l'article, c'est la ministre responsable qui peut dire « OK, pour des raisons d'ordre public, on peut annuler le projet de tramway » et ainsi de suite. Mais là, elle n'a pas attendu. Là, tout de suite, cette semaine, elle a dit « Bien, vous allez payer pénalité si vous débarquez du projet. » Bon, d'ici 2027, il peut se passer bien des choses.
Ouais,
puis Sam Hamad aussi se retrouve pénalisé, à mon humble avis, tant qu'il ne présentera pas concrètement. C'est beau, mobilité intelligente. C'est des beaux mots qui vont très bien ensemble, comme dirait Paul McCartney. Mais encore faut-il l'expliquer, le projet. Là.
C'est ça. Si on recule un petit peu en arrière, à l'époque, M. Hamad, déjà, il n'était pas favorable au tramway. Il avait milité en faveur d'un SRB.
Oui, oui.
Et si on se souvient pourquoi le SRB a été mis de côté, finalement, et dans l'opinion publique et par le maire de Lévis, c'est parce qu'on trouvait que ça coûtait trop cher, le SRB, alors qu'aujourd'hui, c'est présenté comme peut-être
la solution économique.
Et puis, M. Hamad disait aussi à l'époque, en parlant du SRB, écoutez, des grands projets comme ça, ça se fait à long terme. Donc, c'est sur du 10-15 ans. Alors, on comprend que sur les grands projets, c'est pas quelqu'un qui sent l'urgence de la chose. Et pourtant, quand on regardait quoi cette semaine, les derniers chiffres qui sortent, RTC, l'achalandage en hausse, déjà, on sent que l'appétit pour le transport en commun est là. La congestion, bien, Audrey nous le rappelle chaque jour.
Mais
la congestion est de retour, elle est bien présente.
Oui.
Alors, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'explications à donner sur la mobilité et sur l'éthique aussi. Parce que ça, c'est une recherche des collègues du Journal de Québec qui rappelle qui nous révèle, même moi je ne le savais pas, que M. Hamad a siégé sur le CA du groupe Trudel, qui est à peu près le plus gros promoteur de Québec. C'est pas mal de siéger sur le projet
absolument
des
pas,
Trudel,
au contraire.
Parce qu'au contraire, ils ont une belle façon de travailler, ces promoteurs-là.
Tu le vois-tu comme un problème éthique? Parce que moi, l'avoir su, j'y en aurais parlé quand il est venu en entrevue. C'est du beau travail du Journal de Québec.
Oui.
Mais est-ce que tu achètes ces explications? Puis est-ce qu'il y a un problème d'éthique qui peut coller là-dessus? Moi, je trouve qu'il a bien expliqué la chose. Puis ce que tu fais sur ton temps apolitique, ça t'appartient un peu. peu, là.
Oui, mais en même temps, la politique, c'est affaire de perception. C'est toujours important, les perceptions. Tu sais, ça m'a fait penser, cette histoire-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, la numéro 2 de l'administration Labeaume, l'ex-collègue Julie Lemieux,
oui.
À un moment donné, elle avait été obligée de révéler, en fait, de dévoiler qu'elle était en couple avec l'architecte François Moreau, qui était l'architecte de l'Amphithéâtre.
Oui.
Et le groupe ABCP Architecture, auquel il appartenait, obtenait des contrats de la ville ou sollicitait des contrats de la ville. Puis à un moment donné, elle a été obligée de dire, écoutez, moi, je dois me retirer des discussions concernant ce promoteur-là. Puis d'après moi, ça a probablement même pesé dans sa décision de quitter la politique à un moment donné, parce que ça allait devenir invivable. Le groupe ABCP est une boîte d'architectes importants, très importants à Québec. Alors, dans le cas de M. Hamad, bien, il va toujours rester un doute. Les Trudel développent Place Fleur-de-Lys, ça va ses places Cap-Bourgeois.
Oui, mais il y avait déjà des ententes avec la ville de Québec, puis Hamad n'était même pas là.
Oui, bien sûr. Tout ça est vrai, puis je ne dis pas que c'est un conflit d'intérêts réel, mais je dis, au niveau des apparences, pour quelqu'un qui a déjà... sur qui il y a déjà des doutes en matière d'éthique à cause de ses relations passées, tout ça, qui a dû quitter la politique à cause de ça, bien, de revenir en scène. Puis déjà, c'est une nouvelle histoire qui pop. Moi, je pense que ça... pour moi, c'est préoccupant. Je ne dis pas qu'il ne doit pas faire de politique, mais essayez d'imaginer le maire qui se retirerait de tous les débats, toutes les conversations où il est question des projets des frères Trudel. C'est-à-dire, ça revient à renoncer à s'occuper du développement de la ville à bien des égards. Mais je ne veux pas exagérer, là, ni dramatiser, mais pour moi, c'est un enjeu réel. En tout cas, certainement que il valait la peine de mettre ça sur la place publique.
Il manquait de morceaux pour la présentation du casse-tête que va être la plateforme électorale de Sam Hamad, et c'est normal. Le programme va être dévoilé au fur et à mesure, mais il y a quand même quelques morceaux qui sont tombés quand on s'est parlé sur quelques sujet en rafale lundi. Et c'est un couteau à double tranchant parce que Sam Hamad dit des choses qui plaisent aux citoyens, mais on n'a pas encore l'alternative. Quand on lui a parlé de la taxe au chat, il a dit que c'était de la bullshit. Il n'a pas dit qu'il allait l'enlever. Quand il a parlé de la taxe à l'immatriculation sur l'automobiliste, il disait que c'était pour achaler l'automobiliste. Il ne nous a pas dit qu'il allait l'enlever ou il allait la réduire de combien non plus. Je trouve que sur des sujets qui ont fait controverse dans la dernière année, il s'est placé très rapidement. Mais à un moment donné, les gens veulent savoir. Puis moi, je trouve ça sain, là. Il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques maintenant de voir arriver quelqu'un avec les bons mots, les bonnes images, les bons slogans, remettre le citoyen au cœur des décisions de la ville.
Personne ne peut être contre ça. Par contre, il y a d'autres sujets pour lesquels il a été plus précis. Par exemple, sur la question de l'interdiction des foyers au bois. Ça, il dit, je vais l'enlever.
Ouais.
Ça, là-dessus, il a été plus précis. Mais c'est vrai que sur d'autres sujets, ça va venir un petit peu plus tard. Mais en tout cas, on a senti lors de son entrée en scène toute la nostalgie et la fierté pour les grands projets qu'il a réalisés. Puis on les lui donne, il a contribué à ça. Puis c'est vrai, c'est dans son bilan. Mais on voit que le maire de Québec, c'est drôle, il m'était venu la même expression à l'esprit quand je l'ai lu dans la bouche de Marchand. Il dit « Make Québec great again ». C'est un petit peu ça, le ton général de sa candidature aussi, de ramener à Québec sa fierté, son énergie, le leadership que Québec a déjà eu.
On n'aurait pas dû perdre, dans le fond, là, parce qu'il ne s'est pas passé une grosse catastrophe. Comment ça se fait que ça nous a filé entre les doigts? Il y a beaucoup de questions à se poser là-dessus. Là.
Oui, il y a beaucoup d'éléments de contexte qui ont changé aussi depuis cette époque-là. À l'époque où M. Hamad était là, on ne parlait pas d'itinérance à Québec, on ne parlait pas de crise
de
logement.
Pas dans la même ampleur, effectivement.
Au niveau économique, Québec vivait une belle période. On venait de sortir d'une période difficile. L'économie venait de commencer à se diversifier à Québec avec des nouvelles technologies, avec les recherches dans le domaine médical, recherche sur le cerveau, etc. Donc, l'économie de Québec était en train de se développer, de se diversifier. Puis, on était au lendemain des fusions aussi. Il y avait eu beaucoup... Ça avait suivi une longue période de querelles, de déchirements. Puis là, tout à coup, les morceaux tombent en place. Il y a une ville unique et ça... donc, il y a eu un effet bénéfique à ça. Et je pense que M. Hamad, en a profité, a participé à cet élan-là à l'époque. Mais je ne suis pas sûr qu'on peut recréer... Simplement en ramenant la même personne, de recréer ce même état d'esprit.
Moi non plus, parce que...
Ce même contexte avec M. M. Couillard puis M. Charest, qui aimaient beaucoup Québec.
Ouais.
Comme M. Legault, c'est moins convaincant.
C'est un peu là où on a discuté lundi, puis le monde a changé. On a l'impression que des ministres influents dans la région de Québec qui défendent les intérêts de la région de Québec, il n'y en a pas beaucoup. Le maire Marchand n'a pas le taux de popularité que Labeaume a eu pendant plusieurs années pour marchander avec le gouvernement des projets pour Québec. Donc, il y a bien des facteurs qui ont changé, mais moi, la volonté de dire on va ramener des gens forts, puis on va ramener de la discussion, même si on n'est pas d'accord. Moi, il y a quelque chose là-dedans. Je suis peut-être atteint de la même nostalgie en passant, parce que c'était des années le fun. C'était des années le fun de suivre l'actualité, parce que, bon, vous le savez, là, on fait de la radio à Québec. Le 90% du temps, on nage dans le négatif. Mais pendant ces années-là, il y avait du développement, il y avait des affaires le fun, puis on était comme...
Ajouter à notre liste, ça a été l'espèce d'année d'euphorie du 400e.
Oui.
C'était le festival d'été qui s'est transformé au début des années 2000 puis qui s'est mis à accueillir des vedettes de partout qui ont fait triper tout le monde.
Oui.
Il y avait tout ça à l'époque. C'est vrai. Et puis, M. Hamad, il aurait très certainement raison de dire qu'il a été un leader beaucoup plus convaincant à cette époque-là que peuvent l'être plusieurs des ministres de la capitale de l'actuel gouvernement et de celui qui a précédé, même. Chez les libéraux. Alors là-dessus, il faut lui donner ce qu'il a, mais je ne suis pas sûr que par magie, du simple fait qu'on le ramènerait à la mairie, on va retrouver tout ça, les réseaux de contact qu'il y avait. Je ne pense pas qu'on peut recréer ça instantanément. Envie de se battre, ça, c'est certain.
On va peut-être voir des morceaux dans son équipe. Moi, je m'attends à ce qu'il dévoile des candidats de qualité, de la façon qu'il en a parlé. Je n'ai pas d'informations plus que les autres.
Surtout qu'il veut faire juste un mandat, il n'a comme pas le choix.
Trouves-tu ça intéressant, François, l'idée de dire moi, je fais un mandat puis je m'en vais, et surtout, y crois-tu,
Je sais pas quoi en penser. C'est vrai que c'est rare qu'on entend ça, dire « je vais faire un seul mandat ». Et il y a été aussi... L'autre élément de nouveauté qu'on a entendu aussi dimanche, c'est dit « j'aurais pas de colistier ».
Ouais, ouais.
Remarquez, il n'est pas le premier à dire « j'aurais pas de colistier », mais le colistier, pour les auditeurs qui savent peut-être pas exactement ce que c'est la possibilité qu'un conseiller de sa même équipe, s'il est élu et que le chef est battu, le conseiller peut laisser sa place au chef et siéger au conseil municipal dans l'opposition.
C'est arrivé, entre autres, avec Jean-François Gosselin.
C'est arrivé avec Jean-François Gosselin, notamment. Puis c'est arrivé avec Jackie Smith aussi, sauf erreur. C'est pas une erreur, parce qu'elle était candidate à la mairie. Elle n'a pas été élue, mais elle a pris la place. Alors, M. Hamad, il dit, moi, c'est la mairie ou rien. Alors, c'est clair.
Les autres candidats à la mairie, ils vont se placer comment? Parce que c'est déjà une lutte à deux. Il n'y a plus de place.
Il n'y a plus beaucoup de place pour les autres. Enfin,
on a vu Claude Villeneuve essayer de prendre un peu de place aujourd'hui pour dire « Oui, Madame la ministre, moi, je suis pour le troisième lien, moyennant certaines conditions. »
D'où son énergie, Denis, c'était pas de même.
Ça va être tough.
Non, ça va être difficile parce que globalement, on l'a déjà dit ici, M. Villeneuve, son parti... Québec d'abord a, grosso modo, la même vision de l'aménagement de la ville que le parti de M. Marchand. Ici et là, quelques nuances, mais grosso modo, c'est là. M. Marchand, dans les faits, là, il met en œuvre le programme puis le plan qui avait été déployé par Régis Labeaume.
Ça ressemble à ça pas mal.
Ça ressemble beaucoup. Il va dans la même direction. Sur certains sujets, un petit peu plus vite que M. Labeaume, sur les pistes cyclables, par exemple, c'est assez évident. Mais autrement, il va dans le même sens. Puis même dans le cas des finances de la ville, M. Hamad sort en fin de semaine en disant « je vais faire le ménage, moi, dans l'administration, tout ça, reprendre le contrôle ». Oui, OK, ça paraît bien de dire ça quand on est dans l'opposition, mais à ma connaissance, la Ville de Québec n'a pas perdu le contrôle de ses finances. Il y avait un plan, un cadre budgétaire qui a été mis en place par la Labeaume il y a une douzaine d'années et plus maintenant. Et la Ville a toujours suivi ça, réduction tranquillement de la dette et tout ça. C'est sûr qu'on aimerait toujours payer moins d'impôts, mais on suit le plan. On ne peut pas dire que les finances de la Ville de Québec sont hors de contrôle en ce moment. Donc, il faut faire la part des choses. Attention à nos déclarations trop faciles.
François, on va changer d'étage. On va retourner à la campagne électorale fédérale, mais on va rester dans la région. Comment le Parti conservateur a fait pour présenter une candidate? La candidature est refusée par Élection Canada. Puis là, ils se ramassent, ils vont demander un appel. Je veux dire, la région de Québec, premièrement, le Parti conservateur, c'est pas le bloc-pot, là. Je veux dire, il y a une organisation, il y a une structure, il y a des vieux bleus qui travaillent. La région de Québec, c'est une région où il y a des candidats d'expérience, des Pierre Paulus, des Gérard Deltel et ainsi de suite. Comment est-ce qu'on a fait pour échapper une niaiserie de même dans une campagne qui est doublement importante dans la région de Québec?
Oui, en fait, c'est un peu... c'est tout à fait inusité, puis un peu inattendu. Ça doit être... je ne sais pas si c'est une première, mais un grand parti national qui n'aura pas de candidat dans tous les dans toutes les circonscriptions.
La seule place où il n'y en aura pas, d'un océan à l'autre pour le Parti conservateur, c'est dans la région de Québec.
Bon, c'est visiblement un accident, une technicalité administrative.
Il faudrait savoir de quel côté.
Oui, c'est ça. Le parti ne l'a pas vu. Bon, ou ne l'a pas vu en cours de route. Je ne sais pas s'il est imprudent. Pas. À ma connaissance, je ne sais pas si vous avez vu. Moi, je n'ai pas vu d'explication à ce qui s'était passé.
Aujourd'hui, ils sont sortis. Ils ont sorti tous les candidats du Parti conservateur du Canada dans la région de Québec. Puis ce qu'ils ont expliqué, c'est que pourtant, ils sont tous allés donner les documents, qu'on a même serré la main de Chani Thériault de leur côté, puis du côté d'Élections Canada, puis que c'est par la suite qu'on a comme fait « Hey, finalement, non, on ne peut pas accepter la candidature. »
Puis c'est pas les signatures.
On dit que c'est pas les signatures. On a été très clair là-dessus, mais il y aurait eu un imbroglio, en lien avec l'attestation de l'agent officiel, ce qui est un document obligatoire, qu'ils auraient transmis par Internet en fin de semaine, qu'ils auraient donné en main propre lundi. Avant l'heure limite de 14h. Est-ce que c'est une erreur du côté d'Élections Canada? Est-ce que du côté du Parti conservateur, on est un peu dernière minute puis on a tourné les coins ronds? Le mystère à cette heure-ci reste complet.
Mais en tout cas, si cette exclusion tient, ça veut dire qu'on va avoir dans Québec 5, il n'y aura pas de conservateurs. Et je pense que ça relance la course. Ça vient ajouter une autre circonscription où il risque d'avoir une bataille plus serrée. Parce qu'en 2021, dans Québec 5, les conservateurs avaient eu 22% des votes, ils n'allaient pas gagner. Cette fois-ci, on ne se comptera pas d'histoire. Tous les sondages, toutes les projections indiquent que c'est M. Duclos qui s'acheminait vers une victoire relativement sûre. Là, c'est assez certain. Et encore aujourd'hui, le Parti conservateur est à peu près à 22 %. Donc, il se passe quoi avec ces 22 % de citoyens? Est-ce qu'ils vont choisir de ne pas aller voter? Ou est-ce qu'ils vont se projeter dans une autre équipe? Et on peut penser que ça ne sera pas chez les libéraux.
Absolument.
Donc, est-ce que c'est le Bloc qui va en profiter? Donc, on voit ici le contexte pour une lutte qu'on n'avait pas vue venir dans la région de Québec. On sait qu'il y en a déjà une dans Limoilou-Beauport, une bataille qui va être intéressante à suivre. Et puis, même dans Montmorency-Charlevoix, je suis sûr que les projections du site Canada 338, auquel tout le monde réfère, ont l'air de suggérer que ça va être une victoire facile des conservateurs. Mais moi, ça m'étonne. Quand je regarde le détail de ça, si on regarde les votes obtenus par les libéraux dans Montmorency et Charlevoix la dernière fois, et les votes qu'on retrouve aujourd'hui, et comment le Parti libéral a progressé partout dans les intentions de vote, et je trouve qu'on ne tient pas compte de ça dans la projection du site Canada 338. C'est comme si les libéraux, où il y aurait une tendance dans cette circonscription-là qui serait contraire à tout ce qu'on observe partout au Canada. Ça me paraît étonnant. Enfin, je pense que là aussi, il va y avoir une lutte. C'est ça que j'essaie de dire de façon trop compliquée.
François, il y a un chiffre qui retient mon attention. C'est une grande enquête, sondage Nanos qui est sorti sur, les intentions de vote, mais les priorités des Canadiens à ce stade-ci de l'élection, puis il y a un chiffre qui a doublé. C'est le chiffre de gens qui considèrent que c'est une élection à un enjeu. Choisir le premier ministre qui va négocier correctement avec Donald Trump. C'était 25 % des Canadiens qui avaient ça comme priorité il y a deux semaines. C'est passé à 50 %. C'est énorme. Dans ce contexte-là, dans une région comme Québec, les candidats de la région, ils ont-tu intérêt à faire des débats, à se faire voir, à ramener les enjeux régionaux, puis à essayer de ramener ça dans une élection plus standard où ils se disent, regarde, les jeux sont faits, on se fie sur nos chefs puis advienne que pourra au débat?
Oui, bien, c'est toujours difficile de faire valoir on en parlait la semaine dernière, de faire valoir des arguments régionaux, enjeux régionaux dans une campagne fédérale, encore plus quand une campagne est accaparée complètement par la crainte ou les inquiétudes semées par Trump. Puis ça continue, alors on le voit, le comportement est erratique sur les tarifs, la bourse qui est complètement affolée, on ne sait plus, qui monte, redescend, repart en vrille. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de place pour d'autres sujets. Par contre, moi, je me dis, si les libéraux consolident leur position de tête, et même la projection voudrait qu'ils soient majoritaires,
finalement. À ce stade-ci,
Et plus, plus cette situation-là va durer, moi, je pense, plus ça va finir par créer de l'espace pour le Bloc, par exemple. Parce que beaucoup de gens s'étaient peut-être tournés vers les libéraux en disant « on ne veut pas les conservateurs ». Là, si on est sûr que c'est les libéraux qui remportent l'élection, alors là, peut-être qu'on peut se permettre de revenir au Bloc et de faire contrepoids, qui sait, être peut-être un joueur majeur et pour influencer le gouvernement, donc détenir finalement la balance du pouvoir. Donc, ça peut peut-être recréer de l'espace. Et le Bloc est assez agressif, hein, relance toutes sortes de vieilles demandes dont on parlait moins. T'sais, exemple, il veut rapatrier les plaines d'Abraham au Québec.
Oui.
Bon, dans les faits, pour les citoyens, je ne suis pas sûr que ça change grand-chose. Qui passe le râteau ou tond le gazon sur les plaines, que ce soit la commission de la capitale ou que ce soit le fédéral? Bon,
moi, tant que
sûr, ça change grand-chose.
Tant qu'on a chaud de la Saint-Jean puis le festival d'été va être correct avec tout. Là, oui.
Mais en tout cas, le Bloc est très, très actif pour amener toutes sortes de demandes comme celle-là. Fait que, donc, pas beaucoup de place pour autre chose que Trump, mais je pense que moi, la grosse nouvelle de la semaine, le gros mouvement que je sens cette semaine, au-delà des sondages d'intention, ouais, tout ça, c'est l'immigration,
ouais,
qui est en train d'émerger et qui va redevenir, qui est déjà revenu un sujet majeur de cette campagne. Là, peut-être pas au point d'occulter les inquiétudes sur Trump, mais quand même, ça devient...
Parce que l'effet est tangible, là, des migrants qui étaient légaux aux États-Unis, mais qui, à cause d'un changement, en fait, d'une réglementation qui va tomber sous Trump, qui sont très inquiets actuellement et qui tentent d'entrer au Canada.
Ça a commencé, là, cette
alors
semaine.
Que, mais... en principe, selon les lois internationales, tu ne sauves pas des États-Unis. C'est considéré comme étant un pays sûr. Sauf que là, il y a toute cette dynamique-là qui pourrait changer. Nous, on fait quoi? Tu sais, on a une responsabilité internationale, mais on n'est pas censé avoir cette responsabilité-là vis-à-vis les États-Unis. Puis on le voit, là, ça se présente à Saint-Bernard-de-la-Colle.
Surtout qu'on était déjà dans un débat, entre autres au Québec, pour réduire le nombre d'immigrants. Puis François Legault a été très vif sur la gâchette cette semaine en disant « ça n'en prend pas plus, là, ça, c'est sûr ».
Puis ce qui est aussi nouveau, puis qui est apparu cette semaine, Québec solidaire et le Parti libéral du Québec qui reconnaissent maintenant qu'effectivement le seuil ou la capacité d'accueillir des nouveaux immigrants est atteinte. Donc, avant ça, ces deux partis-là plaidaient pour continuer à ouvrir les portes. Alors oui, qu'est-ce qu'on fait? C'est effectivement la bonne question parce que c'est déjà par centaines que les Haïtiens, notamment, se bousculent, commencent à se bousculer aux portes de la colle et on sent que ça va s'amplifier. Hey, c'est juste les Haïtiens, je pense que c'est 520 000 aux États-Unis, sans compter 600 000 de Vénézuéliens et autres latino-américains qui sont dans cette situation-là.
Qui étaient qui n'étaient pas des
c'est pas des criminels,
légaux,
là, c'est des gens qui étaient en situation régulière. Là, l'administration Biden leur avait permis cette exception. Mais là, on voit des différences apparaître entre les partis. Carney qui dit, ben moi, j'ai pas de problème à aller retourner aux États-Unis. Mais ça, c'est dans un contexte des ententes avec les tiers pays sûrs. Est-ce que les États-Unis sont encore un pays sûr?
On ne sait plus.
Je pense que c'est une question qu'il faut commencer à se poser. Dans le cas des conservateurs, ils nous disent, on va accepter uniquement les vrais demandeurs d'asile. Mais là, quand on parle d'Haïtiens, notamment, si ce n'est pas les États-Unis, si ce n'est pas ici, si tu retournes en Haïti, moi, je pense que c'est tous des vrais demandeurs d'asile quand on regarde quelle est la situation de violence en Haïti, la désorganisation et tout ça. Donc, c'est facile d'avoir des réponses qui paraissent bien, mais dans les faits, qui va décider quoi? Et c'est pas juste les élus, hein, puis les partis politiques qui décident ça. Il y a un contexte de loi internationale.
Mm-hmm.
Au Canada, t'as un commissariat qui arbitre normalement ces dossiers-là. Est-ce que oui ou non, cette personne-là se qualifie comme demandeur d'asile? On a senti que M. Duceppe était peut-être un petit peu plus ouvert dans le cas des Haïtiens. Il disait, ils parlent français, donc la menace sur la survie du français est peut-être moindre que pour d'autres groupes. Qu'est-ce que j'ai dit?
Duceppe.
Je pense.
On a fait un petit voyage dans le temps.
J'ai trahi mon âge, mais merci Véro.
On est dans la nostalgie là, avec sa maman et compagnie.
Moi, ça m'a plongé en arrière, puis là, je suis tout bouleversé.
Mais c'est dur de tenir ce débat-là cette semaine au Québec. Il y a juste un immigrant qui nous intéresse, puis c'est Ivan Demidov. François,
il va l'obtenir, son statut
au moins le visa de travail.
Je ne sais pas si ça va être un asile politique, mais en tout cas, certainement. Ou il va tomber dans un asile politique, mais en tout cas,
Lundi soir, ça va être l'asile au Centre Bell, ça c'est sûr. Hey, merci François.
C'est un plaisir.
François Bourque pour commenter toute l'actualité. Dieu sait que les sujets manquent pas avec tout ce qui a décollé cette semaine du côté du municipal avec l'arrivée de Sam Ahmad et ça se poursuit du côté fédéral. Puis crime, on est déjà un peu plus qu'à mi-parcours.
Ouais.
Tu sais, quand on dit que ça va vite, cette campagne-là, c'est hallucinant.
Je trouve que c'est une belle longueur.
Oui, quand même, quand même. On n'aura pas le temps de s'emmerder, puis c'est tant mieux. 17h03, on fait une courte pause, on revient. Vous êtes à Boulevard 102.1, c'est Gravel dans le retour. Gravel.